deixa na via.
Démarrons l'émission Une heure en Palestine qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. Je vous rappelle que si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualités brûlantes, aujourd'hui avec la menace d'annexion de la vallée du Jourdain par Israël ou la pandémie dans les territoires occupés. Mais aussi, vous y trouverez des documents de fond, des témoignages, des pages culturelles et sportives, historiques. Vous y trouverez des pétitions, des appels à participer à des campagnes nationales ou internationales de soutien à la Palestine. Je ne détaille pas les événements en lien avec la Palestine qui sont prévus à la rentrée, car ils sont nombreux. Reprise des rencontres mensuelles à la librairie Beaupetit, venue à Marseille de l'avocat franco-palestinien Salah Amouri, présentation de films palestiniens lors du festival Primed, tenue de stand de Palestine 13 lors du festival du dessin de presse et de la caricature à l'Estac et lors de la rencontre des retraités CGT à Fabrigoul. Pour découvrir ces événements, rendez-vous sur l'agenda du site de Palestine 13, je vous rappelle, assopalestine13.org. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter une conférence passionnante du 23 juin 2020. À la veille de l'annexion de la vallée du Jourdain, prévue le 1er juillet, des chercheurs que nous apprécions beaucoup à Palestine 13, Jean-Paul Chagnolo, Dominique Vidal et René Bagman, évoquent le sujet suivant, annexion, Netanyahou en difficulté. Cette émission est animée par Aude Thépenier, qui est directrice exécutive de l'IREMO. L'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Vous pouvez visiter son site passionnant, iremo.org, iremo.org. Pour terminer cette émission d'été, nous vous proposerons un morceau de nos musiciens palestiniens préférés, le trio Joubran, avec son dernier titre, La Longue Marche. Nous vous souhaitons une belle fin d'été.
En direct sur la plateforme Zoom et sur YouTube. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. On est très heureux de vous accueillir pour ce débat en direct. Donc aussi bien celles et ceux qui sont en ligne avec nous sur la plateforme Zoom que celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est la première fois que l'IREMO nous faisons une conférence en ligne en direct. Nous pensions en effet qu'il était important de se retrouver pour discuter avec vous de ce sujet de l'annexion à l'approche de la date du 1er juillet. Même si c'est en ligne, étant donné les circonstances, mais c'est aussi bien utile la visioconférence pour ça. Et avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, nous voulions aussi rendre hommage à Ziv Sternel, qui est décédé il y a quelques jours, qui est un historien spécialiste du fascisme européen et figure de la gauche israélienne, militant pour la paix, qui était un ami de l'IREMO, où il est intervenu à plusieurs reprises, notamment lors d'un colloque qu'on avait organisé en 2017 et dont on vous mettra en commentaire épinglé le lien si vous voulez retrouver son intervention en vidéo. Et ce moment où il disparaît, ça apparaît malheureusement comme assez symbolique, à la veille d'un nouveau possible coup de force qui pourrait compromettre toujours plus les espoirs de paix. Donc il s'agit de ce projet d'annexion partielle de la Cisjordanie, donc à savoir les colonies et la vallée du Jourdain, auquel le plan Trump présenté en janvier dernier avait ouvert la voie et qui a ensuite été inclus dans l'accord de gouvernement de Benjamin Netanyahou avec son rival Benny Gantz. Et donc, il doit être présenté plus en détail le 1er juillet. Or, on est à près d'une semaine du 1er juillet, mais nous ne savons cependant toujours pas si cette annexion aura lieu, quand est-ce qu'elle aura lieu, sur quel territoire. Et de nombreuses questions se posent sur, bien sûr, sur ces implications. Il y a également de nombreuses pressions internes et internationales qui s'accentuent pour dissuader Netanyahou de se lancer dans ce projet. Et donc, il y a beaucoup de choses encore qui restent floues et qu'on va essayer de décrypter ce soir. Et donc, pour nous éclairer sur ces enjeux, nous avons nos trois spécialistes et fins analystes de la situation en Israël et en Palestine, que sont Jean-Paul Chagnolleau, Dominique Vidal et René Bachmann, donc tous trois membres de l'IREMO. Je les présente brièvement pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc, Jean-Paul Chagnolleau est président de l'IREMO, professeur émérite des universités et directeur de la revue Confluence. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont notamment L'invention tragique du Moyen-Orient avec Pierre Blanc, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, et le dernier, Israël face à Israël avec Pierre Blanc. À ses côtés, virtuellement, bien sûr, parce qu'il est de chez lui, Dominique Vidal, journaliste et historien, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique. Il a également été directeur international du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Il dirige chaque année avec Bertrand Badie, l'État du Monde. Le dernier opus, Fin du leadership américain, l'État du monde 2020, est paru en 2019. Et il a également publié Antisionisme égale antisémitisme, réponse à Emmanuel Macron. Et enfin, toujours à ses côtés virtuels, René Bachmann, journaliste et chroniqueur à Mediapart, spécialiste de la région du Proche-Orient, ancien rédacteur en chef du service étranger de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur. Il a coécrit Les médias et l'humanitaire, éthique de l'information ou charité spectacle avec Ronnie Broman. Et il a publié aussi l'ouvrage Un mur en Palestine. Voilà, donc les présentations sont faites. Nous allons commencer par poser les grandes lignes du sujet pour initier le débat. Puis ils pourront répondre à vos questions. Donc pour celles et ceux qui sont avec nous sur la plateforme Zoom, vous pourrez les poser soit par écrit sur le chat dans la partie conversée qui est à votre disposition, ou bien directement à l'oral quand on vous donnera la parole, je vous expliquerai comment. Et ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez poser vos questions en commentaire et je les transmettrai à nos intervenants. Et donc, pour commencer tout de suite le débat, je vais demander tout d'abord à Dominique Vidal de nous expliquer l'ensemble des éléments qui jouent dans cette affaire d'annexion et poser les différents tenants et aboutissants qui ont conduit à ce projet.
Merci Aude et bonsoir à toutes et tous. La première chose qu'il faut dire, c'est que l'annexion de la Cisjordanie, c'est le rêve de toujours de la droite et de l'extrême droite israélienne, et notamment depuis leur arrivée au pouvoir avec Menachem Begin en 1977. C'est ce que Begin appelait Eretz Israël, le grand Israël. L'annexion a été aussi au cœur de la triple campagne électorale de Benjamin Netanyahou en 2019 et 2020. Et enfin, elle est, même si le mot d'ailleurs ne figure pas dedans, au cœur de l'accord de la coalition formée le 17 mai avec Benny Gantz. Ce jour-là, dans son discours d'investiture, Netanyahou a déclaré, je le cite, « Ces territoires sont là où le peuple juif est né et s'est développé. Il est temps d'appliquer la loi israélienne et d'écrire un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du sionisme. » Et pourtant, comme l'a dit Aude, à 8 jours de la réunion de la Knesset sur cette question, on ne sait toujours pas si l'annexion aura lieu, quand elle interviendra et à quel territoire elle s'appliquera, ni d'ailleurs quel sera officiellement le statut de leurs habitants palestiniens. Netanyahou envoie en fait des signaux contradictoires. Un jour, il assure qu'il annexera bien 30% de la Cisjordanie, comme prévu dans le plan Trump. Un autre, il laisse entendre que le Parlement pourrait ne pas voter sur l'ensemble du plan Trump afin d'éviter à certains députés de devoir se prononcer en faveur d'un État palestinien, même croupion. Un autre jour encore, il affirme que, je cite, « les cartes ne sont pas encore prêtes et précises, nous les publierons lorsque nous serons arrivés à un accord avec les Américains ». Certaines sources parlent d'une annexion par phase, la première concernant 2 blocs de colonies autour de Jérusalem, Mahalé Adoumim et Gouche Etzion, plus le bloc d'Ariel. Mais Jared Kushner lui-même a souligné qu'une telle méthode risquait de multiplier les vagues de protestations dans le monde. Selon d'autres indiscrétions, le Premier ministre annexerait 10% de la Cisjordanie, essentiellement des colonies situées au cœur de cette dernière. Alors au fond, la question, c'est comment expliquer cette valse hésitation. Comme souvent, Je crois qu'il n'y a pas d'explication monocausale, mais des causes entremêlées. Et d'abord, premièrement, en Israël. René Bachmann, je crois, y reviendra plus longuement. Pour aller vite, disons que l'opinion est très hésitante. Dans certains sondages, une majorité soutient l'annexion. Dans d'autres, plus nombreux, elle la refuse. Même l'électorat du Likoud semble partagé. Et Benny Gantz se fait tirer l'oreille. Autre problème majeur, l'appareil sécuritaire, armée et services secrets, est très opposé à l'annexion. Un groupe de 300 anciens généraux et officiers de haut rang, qui s'appelle les commandants pour la sécurité d'Israël, a dénoncé des actes unilatéraux d'annexion qui pourraient, je les cite, compromettre le traité de paix et la coopération en matière de sécurité avec la Jordanie, la coordination avec les forces de sécurité palestiniennes et le caractère juif de l'État. Même une annexion à petite échelle, je les cite à nouveau, risque de se transformer en une annexion à grande échelle, déclenchant une réaction en chaîne sur laquelle Israël n'aura aucun contrôle. Dernier obstacle, et de taille, la Cour suprême a retoqué la loi du 6 février 2017 qui ouvrait la porte à l'annexion en autorisant la spoliation de terres palestiniennes privées. C'est évidemment un obstacle légal dont Netanyahou doit, d'une manière ou d'une autre, tenir compte dans le dessin des cartes des zones à annexer. La deuxième série d'obstacles vient des États-Unis. Visiblement, plus Donald Trump accumule les ennuis, c'est un mot faible, gestion catastrophique de la Covid, catastrophe économique, vaste mouvement antiraciste, échec du meeting de Tulsa il y a quelques jours, et plus il hésite à s'embarrasser en plus de l'annexion de la Cisjordanie. D'autant que Biden s'y oppose et que c'est un sondage d'aujourd'hui, il est intéressant, 2 Américains sur 3 sont prêts, disent-ils, à remettre en question les relations de l'Amérique avec Israël. Même un pilier néoconservateur comme Daniel Pipes a expliqué que l'annexion allait, je le cite, « probablement nuire aux bonnes relations avec l'administration Trump, avec les démocrates, les Européens et les dirigeants arabes, mais aussi déstabiliser la région, radicaliser la gauche israélienne et desservir l'objectif sioniste d'un État juif ». Mais la plus mauvaise surprise, la troisième, vient du monde arabe que Trump et Netanyahou imaginaient asservi. La résistance de Mahmoud Abbas et notamment l'annulation des accords d'Oslo ont renforcé l'hostilité du monde arabe au plan Trump. Déjà, à la surprise générale, le sommet du Caire du 1er février dernier l'avait rejeté comme injuste car, je le cite, ne respectant pas les droits fondamentaux du peuple palestinien. Cette position vient d'être confirmée par un sommet visuel. Et l'imminence de la menace a notamment durci les positions d'un des deux seuls États liés par un traité de paix à Israël, la Jordanie. Dans un entretien au Spiegel, il y a un mois environ, le roi Abdallah déclarait, je cite, « Si Israël annexe la Cisjordanie en juillet, alors un conflit d'ampleur avec le royaume hachémite de Jordanie pourrait éclater » et d'envisager, ouvertement, que son pays puisse se retirer du traité de paix signé avec Israël en 1994. Plus étonnant, même dans le Golfe, qui est plutôt sensible aux avances israéliennes, certains se réveillent. L'ambassadeur des Émirats aux États-Unis a mis les points sur les i, je le cite, « L'annexion mettra certainement fin aux aspirations israéliennes à de meilleures relations avec le monde arabe et les Émirats sur les plans sécuritaires, économiques et culturels. » Dernière mauvaise surprise, l'Union européenne est un peu moins divisée qu'Israël ne l'espérait. Jean-Paul va y revenir, je crois. Disons que la réprobation a été croissante. Et si Emmanuel Macron, jusqu'ici, n'a pas dit un seul mot sur le sujet, mais en ce moment, il a des oublis, il a aussi oublié de parler de George Floyd, on le sait, ses homologues européens l'ont fait avec de plus en plus de netteté. Même le chancelier autrichien, très proche d'Israël, tout en bloquant une possible initiative commune de l'Union européenne, a exigé de Tel Aviv qu'il n'annexe pas de territoire palestinien. On attend cependant la concrétisation de la démarche européenne annoncée par Jean-Yves Le Drian. Paradoxalement, c'est l'Allemagne qui va prendre d'ailleurs la présidence de l'Union européenne et du Conseil de sécurité des Nations unies le 1er juillet, qui semble plus en pointe que la France. La visite récente de son ministre des Affaires étrangères en Israël a aggravé le contentieux. Il faut dire que le gouvernement israélien a interdit à son hôte de se rendre à Ramallah sous peine de 14 ans. Le lendemain, le ministre signait avec ses homologues jordaniens et palestiniens un communiqué condamnant toute annexion et réaffirmant la nécessité d'une solution à deux États conforme au droit international. Et cet homme, qui est considéré en Allemagne comme un ami d'Israël, tout en ne se déclarant, je cite, « pas enthousiaste à l'idée de mesures de rétorsion en cas d'annexion », a affirmé, je cite, « d'autres pays veulent imposer des sanctions contre Israël, voire reconnaître l'État de Palestine ». C'est donc, du côté européen, une affaire à suivre. C'est en fait de l'ONU qu'est venue la caractérisation la plus nette de la démarche annexionniste israélienne. Michael Link, le rapporteur spécial de l'ONU pour la Palestine, a déclaré, je cite, « le plan cristalliserait un apartheid du XXIe siècle, laissant dans son sillage la perte du droit des Palestiniens à l'autodétermination, légalement, moralement, politiquement, c'est tout à fait inacceptable ». J'ajoute pour conclure qu'au-delà de la Palestine, l'annexion menacerait le droit international lui-même et avec lui la notion de communauté internationale. Ce serait au fond un pas important vers le retour à la loi de la jungle.
Merci Dominique pour avoir brossé déjà un premier paysage. Alors justement, par rapport au droit international, Jean-Paul, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, comme c'était un projet d'annexion unilatérale, qu'en est-il de la légalité interne et aussi de la légalité internationale de ce projet?
Oui, bonjour à tous. Et en fait, Dominique vient de me, comme dans une course de relais, me donner le bâton qui me permet de continuer parce qu'il a utilisé la formule « la loi de la jungle ». Et je crois que c'est exactement ça. Alors, je voudrais dire quelques mots pour essayer de préciser, quand on parle d'annexion, vous avez dit annexion, de quoi s'agit-il? Et peut-être maintenant ou tout à l'heure, je voudrais aussi évoquer très concrètement ce que ça peut changer en termes à la fois juridiques et politiques sur le terrain. Alors, je ne sais pas si je vais le faire en même temps, on verra tout à l'heure. D'abord, sur le premier point, simplement, de quoi s'agit-il? En fait, si on prend la formule, la loi de la jungle, qui est parfaitement pertinente, c'est revenir un peu à l'histoire longue des relations internationales. Et dans l'histoire longue des relations internationales, au fond, c'était un rapport de force à l'état pur. Bien entendu, aujourd'hui encore, les relations internationales sont fondées sur les rapports de force, sauf qu'il y a de multiples régulations depuis quelques décennies, depuis la construction lente, complexe, contradictoire du droit international. C'est un acquis, disons, du XXe siècle, pour faire très bref, et peut-être, disons, de la seconde moitié du XXe siècle. En tout cas, avant cela, le vainqueur, dans un combat quel qu'il soit, s'approprie tout ce qui appartient au vaincu. C'était s'approprier ses richesses, s'approprier sa population et bien entendu le territoire qu'il annexait. Si on prend par exemple l'histoire de la colonisation, ce n'est rien d'autre finalement qu'un rapport de domination qui s'impose et la France par exemple conquiert l'Algérie et annexe l'Algérie. L'Algérie devient partie intégrante de son territoire. Nous étions au 19e siècle, en 1830. Donc c'était ça le monde, comme on dirait aujourd'hui, mais ça serait un peu compliqué, le monde d'avant, quoi. Mais le monde vraiment d'avant. Et c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que par rapport à ça, j'évoquais une construction du droit international lente, mais importante, et qui est pour moi, le droit international, un bien commun de l'humanité. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États, malgré leurs différences, leurs contradictions, leurs affrontements, ont au fil du temps tissé des règles qu'ils ont acceptées. Le fondement du droit international, c'est l'accord entre les États, c'est le consentement entre les États. L'archétype de cet accord global, c'est évidemment, mais pas seulement, mais c'est quand même tout à fait important, la Charte des Nations Unies. Et au cœur du droit international, il y a les questions de stabilité internationale, de sécurité internationale, et donc il y a eu un principe qui s'est imposé et qu'on retrouve non pas exactement dans la Charte des Nations Unies, mais tout y concourt, c'est l'idée de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. L'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. Et on peut prendre un terme encore plus précis, en termes juridiques, c'est qu'une occupation militaire, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la durée, n'est jamais translative de souveraineté. Ça veut dire que parce qu'il y a des soldats quelque part, même s'ils y restent des décennies, que pour autant la puissance occupante, terme également du droit international, aurait un quelconque droit à légiférer sur le territoire qui reste fondamentalement un territoire occupé. Et donc, ce principe, eh bien, lorsqu'il a été violé, car il l'a été ici et là, eh bien, la réaction de la communauté internationale, de l'Organisation des Nations Unies, a toujours été de dire que c'est évidemment contraire à ce principe fondamental et contraire au droit international, contraire à la Charte des Nations Unies, contraire aux résolutions du Conseil de sécurité. Et je prends vite trois exemples. Lorsqu'il y a eu l'annexion de Jérusalem en 1980, eh bien aussitôt, il y a une résolution du Conseil de sécurité, au mois de juin 1980, c'est la résolution 467, qui dit clairement que c'est contraire au droit international, parce que ça entame ce principe que j'évoquais. La résolution 242, qui est la résolution que chacun connaît quand on s'intéresse à la question israélo-palestinienne, qui date de novembre 1967, affirme d'emblée le principe que j'évoquais, non-admissibilité de l'acquisition de territoire. Là, la résolution 242 dit non-admission de territoire par la guerre, mais ça revient même, c'est la force, évidemment. Si on prend un autre exemple, c'est intéressant, parce qu'il y a eu à l'époque beaucoup de discussions et pour ceux qui ont vécu ça, ils s'en souviennent, c'est au moment de l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990, et Saddam Hussein a aussitôt indiqué qu'il allait annexer le Koweït, en faire la énième province de son État. Eh bien, immédiatement, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité, votée à l'unanimité, qui a condamné cette annexion, la jugeant illégale, et puis, c'est un point de droit, mais qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer, mais ces résolutions au moment de ce qui va devenir la guerre du Golfe étaient prises sur la base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on utilise une résolution sous chapitre 7, ça veut dire qu'on peut utiliser des moyens coercitifs, des moyens économiques et en dernière instance, des moyens militaires. Donc c'est vraiment le moyen pour imposer le respect du droit international. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire du Koweït et la guerre du Golfe en février 91 qui a suivi. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe en ce moment, ou ce risque de se passer, parce que, comme l'a expliqué Dominique, tout est encore compliqué, on ne sait pas très bien où on va aller, mais si annexion il y avait, qu'elle soit partielle ou un peu plus large, ce serait, là encore, une rupture profonde avec le droit international qui existe, et pas simplement le droit international de manière générale, mais le droit international dans son cœur, dans ce qui est le noyau dur du droit international, puisque ça touche aux questions de la sécurité. Si cette annexion est en discussion, si elle est possible, c'est évidemment pour des raisons qui nous ramènent à la loi de la jungle tout à l'heure qu'on évoquait, c'est-à-dire que sur le terrain, il y a une domination militaire. Il faut quand même rappeler que sans l'armée israélienne, évidemment, tout ceci n'aurait aucun sens. Donc, nous sommes dans un rapport de force, qui est depuis très longtemps complètement asymétrique à l'égard des Palestiniens. Mais il y a un deuxième élément, évidemment, qui est cette conjoncture qui a déjà quelques années, depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est qu'évidemment, le gouvernement Netanyahu-Gantz s'appuie sur la position américaine, qui est elle-même en rupture avec sa propre position habituelle, puisque jusqu'à Obama, on était sur les logiques que j'évoquais tout à l'heure complètement, et donc la solution à deux États. Donc là, Trump, on en connaît les termes, a décidé donc de proposer un plan. Et qu'est-ce que c'est que ce plan, finalement? C'est un plan qui sent bon, si j'ose dire, ou qui sent mauvais, la logique coloniale. Nous sommes dans la pure logique coloniale, puisque c'est un État puissant qui décide de donner à un autre État, Israël, un territoire qui appartient non pas à un troisième État, mais qui appartient à un autre peuple. Donc on est vraiment dans une logique coloniale complète. J'ajouterais, puisqu'on parle de Trump, que cette annexion dont nous parlons, elle est territorialisée sur les bases qu'on a évoquées, mais dans le plan Trump, on parle aussi d'annexion potentielle des eaux territoriales au large de Gaza, qui comprennent d'importantes ressources gazières, donc c'est quand même aussi extrêmement important. C'est plutôt le hold-up du siècle, si ça devait se faire, et non pas le deal du siècle. Et puis, dans ce plan Trump, toujours dans les logiques de désarticulation du droit international, là on vole la terre, ensuite on va voler les eaux et les ressources, mais aussi, il faut tout de même y penser, c'est qu'il y a dans le plan Trump une disposition qui d'ailleurs a gêné sans doute un peu les Israéliens, c'est qu'il envisage une partie du territoire israélien qu'on appelle le Triangle, qui est dans la région d'Oum el-Farem, qui regroupe une très grande majorité d'Arabes citoyens d'Israël, qui sont peut-être enfin, plusieurs centaines de milliers, et cette partie du territoire, dans le plan Trump, on envisage de le transférer à l'État palestinien bantoustan qui est envisagé par ce même plan. Donc vous voyez, on est vraiment dans une logique coloniale, et le tout est totalement contraire au droit international, et c'est aussi quelque chose qui est… Alors c'est grave pour le conflit israélo-palestinien, mais Dominique l'a évoqué, mais c'est aussi grave pour le droit international et pour la régulation des relations internationales. Aller dans cette direction, c'est évidemment procéder à la dislocation des fondements du droit international. Et je pense que l'élection de Trump en novembre, ou la non-élection, va être tout à fait décisive de ce point de vue-là, chacun le sait. Car évidemment, ce qu'il fait sur le conflit israélo-palestinien, il le fait dans d'autres sujets et sur d'autres chemins. Donc on est vraiment peut-être à un tournant des relations internationales, si ça devait continuer encore des années. Vous voyez à quel point cette affaire est grave. En plus, elle a ce côté très symbolique, ce côté très symbolique qui est lié à toute l'importance politique et symbolique qu'est le conflit israélo-palestinien. Alors si je devais conclure sur ce point simplement, sans parler pour l'instant de ce qui peut changer, Aude, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qui va changer concrètement avec l'élection, parce que je crois que c'est très important de regarder de plus près. Qu'est-ce qu'on peut conclure ? On peut conclure en deux, trois points. Le premier, c'est que c'est donc une annexion de la force par la force. Et donc, c'est évidemment unilatéral. Ça va être habillé par une loi de la Knesset, par une législation interne, mais qui ne concerne par définition que l'État d'Israël. Ça n'a aucune valeur sur le plan du droit international, qui est au contraire une violation du droit international. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça veut dire que même si cette annexion, quelle qu'elle soit, devait avoir lieu, eh bien, ça reste au plan juridique, pour les analyses notamment aux Nations Unies, ça restera des territoires occupés, comme Jérusalem-Est est toujours considéré comme un territoire occupé, ou comme le Golan, une partie du Golan qui est annexé en 81, est aussi considéré comme un territoire occupé. Et par rapport à ça, je voudrais simplement dire que quand il y a une annexion, au fond, il y a trois postures possibles, et on va en discuter tout au long de notre discussion. C'est ou bien on se contente de parler, on vote des résolutions, et ça ne va pas plus loin, ce qui est souvent arrivé. Pour Jérusalem-Est, par exemple, on a voté des résolutions. Et ce qui est intéressant, qu'on a voté des résolutions à l'unanimité au Conseil de sécurité, puis il y a eu des rapports, de multiples rapports sur le sujet qui viennent de l'Union européenne. Mais tout ça, c'est des textes importants, bien entendu, parce qu'ils balisent, ils font référence, mais ils ne font pas évoluer les choses, bien évidemment. Ça, c'est la première posture, ce qui est au fond une posture de déclamation, rappel au droit, c'est essentiel. Mais on voit bien que ça ne change pas la réalité géopolitique sur le terrain, et j'ajouterai sur ce point des résolutions, c'est que dans notre affaire d'annexion de la Cisjordanie, il n'y a aucune chance que le Conseil de sécurité ne se prononce, puisque, évidemment, il y aura un veto des Nations Unies. Donc, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure à propos du Koweït. Quand il y a une annexion, eh bien, on passe une résolution qui ne pourra pas avoir lieu parce que les États-Unis vont mettre leur veto, mais il faudrait, comme pour le Koweït, on peut imaginer le chapitre 7, ce fameux chapitre qui permet d'avoir une résolution, pas simplement obligatoire, mais qui permet ensuite d'exercer des contraintes. C'est évidemment un scénario impensable en ce qui nous concerne. Et puis, il y a le troisième exemple, qui n'est plus au Moyen-Orient, c'est plus Jérusalem, c'est plus Koweït, c'est la Crimée en 2014. Et là, il n'y a pas eu de résolution, puisqu'évidemment, le Conseil de sécurité est bloqué par la Russie, cette fois-ci, non pas par les États-Unis, mais il y a eu, de la part notamment de l'Union européenne, toute une série de sanctions qui ont été appliquées depuis 2014, à la fois sur les décideurs, il y a des sanctions contre un certain nombre de gens qui sont les décideurs, mais aussi des éléments très précis sur le plan économique, sur le plan commercial. Donc on a toute cette palette. Et on voit bien que, si je résumais, je dirais c'est donc une affaire extrêmement importante pour le conflit israélo-palestinien, c'est une affaire extrêmement importante pour le droit international et donc pour les relations internationales. Ça a une valeur comme je l'évoquais tout à l'heure, à la fois symbolique et politique, tout à fait considérable. Et donc, la réponse de la communauté internationale est à scruter de très près, parce que si la communauté internationale se contente du premier scénario que j'évoquais, c'est-à-dire simplement on parle sans faire, eh bien, ça veut dire que les choses passeront et donc on sera dans ce chemin que je trouve très, très grave et très dangereux pour la suite des choses. Et du coup, et je voudrais dire un mot pour conclure, cette annexion par rapport à le fameux débat solution à un État, deux États, ce n'est pas l'annexion qui enterrerait, à mon sens, la solution à deux États. C'est les réactions de la communauté internationale. Autrement dit, si la communauté internationale ne réagit pas, alors c'est elle qui est responsable d'une contradiction majeure. Elle plaide pour la solution à deux États et laisse faire une annexion. Donc c'est la réaction, ou plutôt l'absence de réaction de la communauté internationale, la passivité que je crains probable de la communauté internationale, qui enterrerait effectivement la solution à deux États, que par ailleurs cette même communauté internationale entend défendre. Puis un dernier mot du dernier mot, ce qu'il faut bien finir par dire un dernier mot, c'est que malgré tout, il ne faut jamais oublier, compte tenu de ce que je viens d'évoquer, c'est qu'une annexion est toujours réversible. Ça n'a en rien un caractère irréversible. Après tout, les Israéliens ont commencé à discuter du Golan annexé avec les Syriens. À un moment donné, ça ne s'est pas fait, mais je veux dire, on peut revenir en arrière. On a pas mal d'exemples en ce sens. Je m'arrête là. Après, peut-être, j'aurai l'occasion de revenir sur l'annexion sous l'angle, cette fois-ci, qu'est-ce que ça change, ou est-ce que concrètement, à la fois sur le plan politique, juridique et sur le terrain.
Merci Jean-Paul pour cet éclairage du point de vue du droit international et des relations internationales. On va revenir en effet sur les différentes réactions internationales qu'il y a pu y avoir pour l'instant. Mais d'abord, on va voir la situation en interne. Oui. Et oui, on va voir aussi la situation tout d'abord en interne à l'intérieur d'Israël, parce que comme l'a dit Dominique, il y a des protestations contre ce projet à l'intérieur même du pays. Une grande partie de la population y semble opposée et il y a des résistances, il semble, à l'intérieur même des services sécuritaires israéliens chez certains colons. Donc René, est-ce que tu peux nous expliquer l'état du débat à l'intérieur d'Israël, toi qui connais bien aussi la société israélienne ?
Je vais essayer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer parce que c'est pas très simple, c'est même assez compliqué. C'est compliqué pour un tas de raisons. La première des raisons, c'est qu'il faut mesurer à quel point Netanyahou a besoin de cette annexion. Il en a besoin pour les raisons idéologiques dont a parlé Dominique tout à l'heure, parce que l'annexion est un point idéologique fondamental dans la ligne politique du Likoud. Le Likoud repose sur la volonté d'annexion. Il a besoin aussi pour une autre raison qui est beaucoup moins noble, si on peut imaginer que la première est plus noble, c'est la suivante, c'est qu'il est en train d'être jugé, Netanyahou, pour corruption et pour d'autres délits financiers. Bon, ça, on a un peu oublié ça parce que le procès a commencé il y a 3 semaines et il n'est pas très souvent présent au procès, mais il est en train d'être jugé, ça va durer des mois et c'est un procès absolument capital d'où il peut sortir un petit morceau, il peut sortir perdant, il peut sortir condamné même à une peine de prison. Dans beaucoup de temps, il faudra du temps pour le juger, mais enfin, il est dans une situation très difficile. Et on le sait, quand il est dans une situation difficile, Netanyahou a toujours tendance à faire appel à l'opinion publique. Il est très habile pour ça, il a des réseaux qui le soutiennent, il a des journalistes, il a des chaînes de télévision, il a des réseaux sociaux qui lui donnent un gros coup de main. Il est très capable de motiver l'opinion publique pour le défendre. Il a donc décidé que si ça tournait mal, il fait appel à l'opinion publique, il a déjà commencé à le faire avant que ce procès commence. Et le premier jour du procès, quand il est venu se présenter au magistrat, il a fait une déclaration préliminaire en s'adressant à la foule avant d'entrer dans la salle, dans laquelle il a demandé aux gens de le soutenir. Donc, l'électorat Netanyahou étant centré autour des colons, et les colons étant, comme on le sait, partisans mortels de l'annexion, il a absolument besoin de ne pas décevoir les colons. C'est pourquoi pour lui, cette chose est absolument capitale. Ce qui est problématique, c'est qu'à l'intérieur d'Israël, il a un tas d'obstacles. Des obstacles qui sont symboliques et des obstacles qui sont très réels. Et les obstacles qui sont symboliques, c'est, disons, les gens qui prennent des positions hostiles à la colonisation, hostiles à l'occupation, hostiles à l'annexion, mais qui ne descendent pas dans la rue pour le défendre. Ça se voit assez souvent et c'est un peu ce qui se passe actuellement en Israël. Mais il y a aussi une partie des gens qui sont plus actifs dans ce domaine et des gens dont l'opinion est plus décisive pour lui. Par exemple, Dominique y a fait allusion tout à l'heure, mais chez les militaires en activité et en retraite, il y a une hostilité ou des réserves très très fortes à la colonisation, à l'annexion, pardon. La colonisation peut-être pas, mais à l'annexion en tout cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a notamment deux secteurs dans lesquels c'est très important. Un secteur, c'est celui des officiers qui ne sont plus actifs, qui sont dans la réserve, mais qui sont encore très importants dans la vie politique, qui ont un avis politique très important, qui sont tous inscrits dans des think tanks ou dans des choses comme ça, et qui parlent très souvent ou qui écrivent très souvent dans les journaux israéliens et internationaux. Et il y a un groupe qui s'appelle les officiers politiques des commandants pour la sécurité d'Israël, dont Dominique a parlé tout à l'heure, qui ne cesse pas depuis des mois de publier des communiqués, des textes, des interventions, des interviews, des tribunes dans la presse internationale et dans la presse israélienne, et de prendre la parole dans l'opinion publique israélienne pour dire « Attention, l'annexion, ce n'est pas seulement inutile, ça peut être même dangereux. Ce n'est pas seulement inutile parce qu'en général, ils sont obligés de préciser ça pour répondre à ceux qui disent « L'annexion est absolument capitale parce que la vallée du Jourdain est indispensable à la sécurité d'Israël. » Ces officiers-là, quand on discute un peu avec eux, ils ont une réponse qui est très simple. Ils disent « On est en 2020 ». En 2020, l'espace de la vallée du Jourdain ne vaut pas un clou du point de vue stratégique. Ce qui a une certaine importance, en revanche, c'est la profondeur stratégique que donne l'alliance, le traité de paix entre Israël et la Jordanie. Le traité de paix est fondamental. Et justement, l'annexion mettrait en grand péril ce traité de paix. C'est exactement là-dessus, d'ailleurs, que le roi de Jordanie a insisté la semaine dernière, quand il a expliqué qu'il ne fallait absolument pas aller vers l'annexion, sinon le traité de paix était en péril. Et il s'engageait lui-même à le mettre en péril, d'une certaine façon.
Ça, c'est un problème. Excuse-moi de te couper, René. Il semble qu'il y a un petit problème de son. Peut-être est-ce que tu peux reculer un peu par rapport au micro pour voir si ça s'améliore. Voilà. Désolé de te couper, c'est juste qu'on m'a signalé qu'il y a des petites interférences.
Est-ce qu'on m'entend mieux, là? Je vais essayer.
Non. OK.
Deuxième problème, c'est avec les officiers qui sont plus importants encore que les officiers de réserve et les officiers qui sont à la retraite. C'est un problème avec l'armée d'active. Ils ne sont pas très loquaces sur ce point-là, mais ils sont très loquaces dans les réunions privées, dans les réunions d'état-major et dans les réunions du gouvernement. Notamment le chef d'état-major de l'armée, qui s'appelle Aviv Khoshavi, a déjà fait savoir à plusieurs reprises à Netanyahou, il l'a répété pratiquement à chaque fois qu'il l'a vu, que l'annexion pour lui était très dangereuse, pour les raisons que je viens de dire, parce qu'il partage l'avis de ses collègues, mais aussi pour une autre raison, parce qu'il estime, lui, que l'armée israélienne doit consacrer son temps, son énergie, son argent aussi, préparer un combat qui est très important pour eux, à leurs yeux. C'est la future confrontation avec l'Iran par le biais du Liban. Ils s'attendent à avoir au Liban une confrontation qui sera avec le Hezbollah, avec des troupes iraniennes, des milices iraniennes, dans les mois ou dans les années qui viennent. Ils auraient préféré avoir à préparer leurs troupes à un combat de ce genre, à les entraîner pour ce genre de trucs, et à préparer leur armement pour un combat de ce type-là. Si jamais il y a l'annexion, ça mobilisera une quantité de troupes considérable, d'abord parce que probablement il y aura des troubles très importants en Palestine occupée, c'est-à-dire dans le reste de la Cisjordanie. Et il y aura aussi des troubles dans d'autres régions. Il faudra que l'armée israélienne s'en occupe. Donc elle sera chargée de faire du maintien de l'ordre au lieu de s'entraîner pour faire une véritable guerre. Et ça, les généraux, comme on le sait, n'aiment pas beaucoup quand on leur distrait leurs troupes et quand on distrait leurs objectifs. Ça, c'est un deuxième problème qui se pose pour eux. Troisième problème, c'est les renseignements militaires. Les renseignements militaires ont exactement la même attitude que les états-majors. Ils disent « Attention, des gens et l'attention du public des vrais dangers qui pèsent sur Israël. Les vrais dangers qui pèsent sur Israël sont l'Iran, les vrais dangers qui pèsent sur Israël sont ce qui peut se passer en Syrie et au Liban. Ce n'est pas le fait d'être installé ou de prendre le contrôle de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain, comme je l'ai déjà dit et comme il le répète sans arrêt, ce n'est pas stratégiquement indispensable à la sécurité d'Israël. Et ce qui a fait le plus gros problème, je dirais, pour Netanyahou, c'est que les colons ne sont pas aussi contents que ça de la manière dont on a présenté l'annexion. Pas tellement parce qu'ils sont contre l'annexion, les colons sont contre très très pour l'annexion, ils aimeraient bien qu'on annexe l'ensemble de la Cisjordanie. Sauf que l'annexion dont on parle aujourd'hui, c'est celle qui s'inscrit dans le cadre du plan américain, du plan Trump, le fameux plan, l'accord du siècle dont Trump rêvait. Ce plan Trump prévoit l'annexion dans un premier temps de 30% de la Cisjordanie, c'est ce qui est apparemment en train de se préparer, c'est ce qui était en train de se préparer jusqu'à ce qu'on sache à quel point c'est compliqué de le réaliser. Les colons pensent que l'annexion sous la forme sous laquelle elle est présentée actuellement ouvre la voie en réalité à la création d'un État palestinien. qui est la chose qu'ils refusent le plus. Donc, ils ont déjà fait savoir que si on s'en tenait à la forme d'annexion et à l'ampleur de l'annexion qui est déjà annoncée, c'est-à-dire la vallée du Jourdain et rien d'autre, sauf peut-être quelques petites colonies éparses, ils n'étaient pas d'accord, ils demandent bien davantage. Ils ont déjà même publié une carte qui va très au-delà des cartes d'annexion qui ont été publiées, parce qu'elle prévoit d'annexer la vallée du Jourdain, d'annexer aussi toute une série de colonies qui seraient à l'intérieur, et pas seulement des petites colonies, mais des blocs de colonies. Ils ont aussi imaginé une autre solution, qui est, pour compliquer les choses, de créer entre les colonies éparses des nouveaux blocs de colonies, c'est-à-dire de réunir les colonies éparses pour en faire des blocs additionnels. Ces blocs additionnels seraient reliés aux blocs qui existent aujourd'hui par des routes très importantes qui contribueraient à séparer encore davantage les petits cantons palestiniens qui constituent, comme on sait, l'espèce de fantôme d'État palestinien que les Américains prévoient. Donc, cette attitude des colons complique encore beaucoup plus la réponse de Netanyahou à ceux qui lui demandent d'annexer vite et tout de suite, à tel point qu'il a déjà commencé à chercher des voies de recours. C'est le recours, c'est assez compliqué. Il a déjà commencé, pour voir si les voies de recours pourraient marcher, il a lancé un certain nombre de ballons d'essai en diffusant dans les journaux, en faisant diffuser par les journaux, des hypothèses d'autres solutions. La première autre solution, ce serait d'annoncer donc la semaine prochaine, c'est mercredi prochain, que non seulement on n'annexe pas tout de suite, mais on met en cours, on met à l'étude, on met en fonctionnement législatif la possibilité d'une annexion. Et à partir de ce jour-là, donc on commencerait à discuter de la possibilité d'une annexion à partir de ce jour-là, on n'annexerait pas à partir de ce jour-là. C'est une des hypothèses. La deuxième hypothèse, c'est que au lieu d'annexer donc la vallée du Jourdain et quelques colonies, on annexerait quelques blocs de colonies internes, les uns, alors une des hypothèses, c'est proche de Jérusalem, autour de Jérusalem, grosso modo correspondant au Grand Jérusalem, plus peut-être Ariel, qui est beaucoup plus au nord. Les autres, ce seraient des colonies éparses, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui constitueraient de nouveaux petits blocs de colonies. Tout ça a été répandu par divers journaux, notamment par un journal qui est très proche de Netanyahou, parce qu'il a été créé pour le rendre service, qui s'appelle Israel Hayom. C'est le plus grand journal, c'est le journal qui a la plus grande circulation, la plus grande diffusion en Israël. C'est un journal gratuit, qui a été offert à Netanyahou par un milliardaire américain, qui est le patron des casinos de travers le monde. Il s'appelle Sheldon Adelson. Ce journal Israel Hayom, qui est d'ailleurs, je le dis au passage, quelque peu impliqué dans l'un des procès qui est fait à Netanyahou, ce journal Israel Hayom a publié la semaine dernière une nouvelle en expliquant qu'il y aurait probablement une annexion qui serait décidée la semaine prochaine, c'est-à-dire une annexion, au lieu d'être une annexion directe, ce serait une annexion par phase. Alors, ça correspondrait à la chose suivante. Dans un premier temps, on annoncerait l'annexion de quelques blocs de colonies qui sont à l'intérieur, ce qui serait moins désagréable pour les Jordaniens, donc ça ne mettrait pas en péril le traité avec la Jordanie, ça réconcilierait peut-être militaire avec la dictature qu'a choisi Netanyahou. Deuxièmement, cette annexion serait moins choquante par rapport aux étrangers que l'annexion de la vallée du Jourdain. Ça permettrait de répondre aux États étrangers qui sont manifestés, notamment aux Allemands, qui étaient effectivement actifs, comme l'a souligné Dominique. On n'annexe pas la vallée du Jourdain, mais on annexe autre chose. Ça permettrait de répondre aussi aux colons qu'on annexe quand même quelque chose d'important, puisque ce sont des colonies qui sont toutes capitales pour eux, jugées capitales pour eux, puisque c'est les colonies sur lesquelles ils sont centrés. Là où les choses deviennent plus compliquées, c'est que dans le projet qui a été révélé par Israël Hayom, la deuxième phase de cette annexion, ce serait si jamais les Palestiniens à ce moment-là, sont interrogés sur la possibilité de discuter de la suite des négociations sur la reprise, par exemple, des pourparlers, sur la création d'un État palestinien ou non, sur comment résoudre le problème de l'État palestinien éventuel. S'ils acceptent de continuer à discuter, on arrêterait les négociations. S'ils refusent de discuter, évidemment, ils ne vont pas discuter sur des choses qui viennent d'être au lendemain d'une annexion. On imagine mal les Palestiniens acceptant une négociation. Donc la deuxième phase aurait lieu après le refus des Palestiniens de négocier. De cette façon, Netanyahou, qui a un raisonnement sur ce point assez simpliste, semble penser que puisque les Palestiniens auraient dit non, tout le monde approuverait de commencer une deuxième phase de négociation. Mais c'est très compliqué. C'est si compliqué qu'une partie de son public juge que cette solution n'est pas la bonne. Ce qui est très surprenant, c'est là aussi un des problèmes qu'il rencontre, c'est que, bien qu'il soit très populaire, il y a même l'autre jour un ancien député travailliste qu'il connaît bien, mais tu sais, aujourd'hui Netanyahu est si populaire, s'il organisait de nouvelles élections et qu'il proposait un cheval de trait à la Knesset, il serait élu. C'est dire à quel point il a un soutien phénoménal à cause du fait qu'il colle au public. Mais, en même temps, l'annexion n'est pas quelque chose du tout qui est approuvé par la majorité de la population. Il faute beaucoup. Pour une raison très simple, c'est que les Israéliens ont été habitués, par Netanyahou notamment, à une situation de statu quo dans laquelle on a annexé déjà des territoires palestiniens sans le dire. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que les deux colonies dont nous parlons, les blocs de colonies sont autour de Jérusalem et les autres, les gros blocs, Gouskatif, les blocs du nord de Jérusalem, les blocs d'Ariel, ils sont déjà annexés de fait à Israël. Ils le sont. Les routes qui vont de Gouskatif à Tel Aviv sont des grandes routes qui ne traversent aucun checkpoint, ils sont reliés directement. Gouskatif, Ariel, les autres gros blocs autour de Majel Adoumim font partie intégrale du réseau routier israélien. L'annexion, elle est déjà faite. Pour les Israéliens, il n'y a pas de raison de se formaliser en allant ajouter à l'annexion qui existait déjà, l'annexion du Jourdain qui ne sert à rien, alors qu'on est déjà capable de vivre tranquillement avec les choses qui sont déjà annexées sans problème. Le statu quo est clé pour les Israéliens. Le statu quo est une formule de paix du gouvernement qu'ils ont approuvée depuis des années sans le dire, mais c'est la formule du gouvernement à laquelle ils sont le plus attachés. À tel point que le dernier sondage qui a eu lieu, celui auquel faisait allusion tout à l'heure Dominique, qui a eu lieu le mois dernier, il rapporte, j'ai les chiffres là sous les yeux, 41,7% des Israéliens, sont hostiles à l'annexion, et c'est seulement 32,2% qui sont favorables à l'annexion. Donc on a un écart de 10% entre les gens qui condamnent l'annexion et les gens qui l'approuvent. Ça donne la mesure des problèmes que rencontre Netanyahou, en plus de tous ceux que je viens de décrire.
Merci beaucoup, René, de nous avoir éclairé là-dessus. Donc, justement, on semble voir que de nombreux opposants au projet d'annexion aussi, ce qu'ils craignent, c'est de perdre certains de leurs acquis dans le monde arabe. Et donc, on va voir avec Dominique, justement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les réactions jusqu'à maintenant, les risques, on en a déjà un peu parlé, mais de remise en cause de certains traités de paix, etc. Voilà.
Ce qui est très frappant quand on prend les textes des opposants à l'annexion, je ne parle pas des opposants du mouvement pacifiste, du mouvement anticolonialiste, bien sûr, je parle des opposants sionistes, des opposants qui font partie de l'establishment israélien. Ils ont un point commun, c'est la peur de perdre tous les acquis des 10 dernières années dans la normalisation des liens avec le monde arabe, évidemment avec la Jordanie, évidemment avec l'Égypte, mais aussi beaucoup avec le Golfe, compte tenu que depuis plusieurs années, on a eu un rapprochement, presque une forme de normalisation. Alors, ce qui est, d'ailleurs, si vous vous sentez, allez regarder par curiosité le texte de l'appel de J. Cole, qui a été publié aujourd'hui dans Le Monde, et qui est signé de grands pacifistes anticolonialistes bien connus, comme Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Daniel Bendit, etc. Quand on regarde bien ces textes, on voit ça, cette préoccupation. Alors, je ne veux pas revenir sur l'ensemble du monde arabe, mais dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est grâce à la détermination de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne que le monde arabe a bougé, que d'un monde arabe relativement disposé à pactiser avec les États-Unis et avec Israël, on est arrivé à au moins formellement, une opposition forte au projet d'annexion. Évidemment, au départ, la marge de manœuvre de l'autorité palestinienne est très réduite, pour plusieurs raisons, qu'il faut rappeler, parce que sinon on est injuste quand on en parle. D'abord, parce que la fonction même de l'autorité palestinienne, elle est quelque part entre la défense des intérêts des Palestiniens et la collaboration avec l'occupant, y compris sur le plan sécuritaire. Ce n'est pas du tout du détail. Les services palestiniens aident beaucoup l'armée israélienne et les services israéliens à éviter, quand il peut s'en produire, des attaques, voire des attentats. Marge de manœuvre étroite aussi, parce que la division entre Fatah et Hamas, entre Cisjordanie et Gaza, a créé une situation qui est un atout formidable pour Israël, qui peut jouer les uns contre les autres quand ça l'arrange. Marge de manœuvre encore étroite du fait du chaos du Proche-Orient, qui fait que la question palestinienne a été marginalisée, parce qu'il y a la guerre civile en Syrie, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé en Irak, parce qu'il y a le Yémen, mais aussi et surtout parce que le bras de fer entre l'Arabie saoudite et l'Iran a servi de prétexte à un rapprochement avec Israël et avec les États-Unis. J'ajouterai un point dans la marge de manœuvre étroite de l'autorité palestinienne, c'est l'opinion palestinienne. Alors, il vient d'y avoir une très grande manifestation, très importante, à Jéricho. C'est pas négligeable, mais enfin, pour le reste, jusqu'à ces derniers jours, il ne s'est rien produit. Alors, on peut dire que c'est l'autorité palestinienne qui n'a pas mobilisé, mais il y a aussi une espèce de résignation d'une partie de la population palestinienne qui se dit, comme René vient de le dire, pour les Israéliens, qui se dit, mais on est déjà annexé. Qu'est-ce que ça va changer d'être vraiment annexé? Et Jean-Paul nous dira ce que ça va changer. C'est vrai que, moi je le raconte souvent, chaque fois que j'ai été en Israël et en Palestine ces dernières années, y compris en octobre dernier, j'ai été frappé par le fait que, je ne parle pas de la population palestinienne en général, parce que les sondages n'ont pas grande fiabilité, mais l'immense majorité des jeunes n'en a strictement rien à faire des deux États. L'idée des deux États est une idée complètement obsolète pour les jeunes palestiniens. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort, mais c'est un fait. Donc ça aussi, ça contribue à la difficulté pour l'autorité palestinienne d'organiser la résistance à l'annexion. Et pourtant, et c'est là que je voulais en venir, étonnamment, avec une détermination tout à fait surprenante, le vieux Mahmoud Abbas et l'appareil de l'autorité a décidé de ne pas se laisser égorger sans se battre. Et donc, ils avaient déjà, depuis quelques années, fait monter la pression sur le plan international, en réussissant à faire reconnaître l'État de Palestine à l'UNESCO, ensuite à l'ONU, peut-être au moins aussi important à la Cour pénale internationale. Il n'y avait pas de droit de veto pour les empêcher d'arriver à ce stade. Donc, on avait cette expérience quand même de la bataille diplomatique, et on a vu Mahmoud Abbas dire non. Non, malgré tout, malgré les pressions de Trump, le fait que Trump ait coupé les vivres à l'UNRWA, la fermeture de la mission de Palestine à Washington. On a même vu, rappelez-vous, le vieux Mahmoud Abbas refuser de prendre Trump au téléphone. Ça a l'air d'un détail, mais là aussi, c'était quand même très significatif. Au fond, ils ont décidé de se battre. Et la preuve, c'est que cette fois-ci, d'après les informations les meilleures que j'ai pu trouver, vraiment les accords avec Israël et avec les États-Unis sont annulés. Il n'y a plus de coopération pratique en ce moment entre les services palestiniens et les services et l'armée israélienne. Et je crois que cette détermination des Palestiniens, comme souvent dans leur histoire d'ailleurs, elle a obligé le monde arabe à bouger. Ce n'était plus possible pour les dirigeants arabes d'être complètement du côté de la normalisation avec Israël et avec les Américains. Parce que, et je crois qu'il faut avoir cette idée en tête, les dirigeants arabes sont dans une situation de grand écart. D'un côté, ils ont absolument besoin, dans le cadre du nouveau Moyen-Orient, de la mondialisation, etc., d'être proche, le plus proche possible des Américains et des Israéliens, y compris dans la lutte contre l'Iran. Mais d'un autre côté, ils ont une opinion qui est une opinion très attachée à la cause palestinienne. Je le dis souvent, mais je crois que c'est important, à mon avis, de le comprendre. Ce n'est pas un problème de solidarité pour les opinions arabes. C'est un problème d'identité. Ça fait partie de l'être arabe, aujourd'hui, depuis un certain nombre de décennies, que d'être du côté de la Palestine. Donc, ces dirigeants arabes se sont retrouvés coincés. Et moi, je me souviens très bien, Jean-Paul était là, je crois, quand on a eu un débat avec plusieurs spécialistes qui disaient « Non, non, les Arabes vont s'allonger comme d'habitude, ils vont accepter, ils vont se laisser faire, etc. » Non, les dirigeants arabes, au moins formellement, ont décidé, comme je le rappelais tout à l'heure, de condamner le plan Trump à deux reprises. Et on sent que non seulement les Jordaniens, pour des raisons évidentes, mais aussi les Émiratis, et c'est très important parce que c'est des gens très proches, comme vous le savez, de Mohamed Ben Salman et de la famille royale saoudienne, de ce côté-là aussi, il y a une forte pression. Personnellement, je pense que si il y a finalement un certain nombre, en tout cas possible, de recul de Netanyahou sur ses projets, ce sera en fonction de cette réalité-là. Israël ne peut pas se permettre de perdre les acquis qui sont les siens depuis plusieurs années dans le monde arabe, l'Égypte et la Jordanie depuis longtemps, mais les autres dans la toute dernière période, dans les 10 dernières années. Thank you.
Shalom.